à Blois. J'appelais pour réagir un petit peu. Il y a un monsieur très très virulent qui a récupéré contre les propos d'Aurélien Barreau. Aurélien Barreau, c'est vrai qu'il a des propos qui sont extrêmement radicaux, mais peut-être que ce n'est pas les propos d'Aurélien Barreau qui sont radicaux, mais la situation qui est radicale. Aurélien Barreau, d'ailleurs, dans ses propos, a plusieurs fois mentionné que les gens modérés doivent devenir radicaux, ils doivent être radicaux parce que c'est la situation qui l'exige. À bientôt, merci pour vos émissions.
Oui, bonjour, je suis Laure de la ville de Niort. Je vous appelle parce que j'ai écouté hier l'émission de l'assiette à la planète « Repenser l'alimentation pour repenser la société ». À aucun moment il n'a été parlé de l'importance de végétaliser l'alimentation. C'est l'éco-geste citoyen le plus efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. Les expertises scientifiques les plus récentes préconisent une réduction drastique allant de 50 à 90% de notre consommation des produits d'origine animale pour lutter contre le réchauffement climatique. Et il n'a aucun moment dans l'émission, il n'a été évoqué ce sujet. Je suis très étonnée. Voilà, merci.
Ouais, salut l'équipe, salut la Terre au carré. C'est Samy du Canigou. Ouais, j'appelais suite au passage de Camille, là, Camille Passauvert, avec le témoignage du berger éthiopien là. Waouh! Ça fait une semaine que je suis monté, moi, sur le massif, là, voilà, il n'y a pas encore les vaches, ça arrive bientôt. Et je trouvais ça juste bouleversant d'entendre le type qui disait, bah, en fait, on va juste devoir changer notre mode de vie, quoi. Tout simplement, le type, il n'est pas astronaute, il est berger, quoi. Ah, voilà. Alors, eux, ça leur arrive. Et nous, ça nous arrivera quand? Allez, salut et continuez bien. Ciao, ciao.
Bonjour Mathieu, c'est Olivier de Bruges en Gironde. J'appelle parce que j'écoute régulièrement votre émission et en fait dimanche j'ai écouté non pas votre émission mais C'est au démon amour de Denis Chessou qui est aussi un peu dans la même sensibilité pour moi et juste avant le flash info de 14h, il y avait une publicité pour une compagnie aérienne canadienne qui incitait tous les auditeurs à réserver des billets pour faire des voyages transatlantiques à des prix imbattables. Il y a quelque chose là-dedans qui me trouble dans le fait qu'on puisse être sur une radio telle que France Inter et avoir de la publicité pour des compagnies aériennes qui nous incitent quelque part à aller un peu plus dans la dépense de carbone et de kérosène. De la même manière, il me semble que la météo sur France Inter est aussi sponsorisée par Air France. Voilà, donc ça, c'est des choses qui me troublent un peu. J'aimerais bien qu'il y ait peut-être, je sais pas, une charte éthique pour voir quel type d'annonceurs sont acceptés sur la radio publique. Merci beaucoup et bonne suite pour vos émissions. Au revoir.
Il y a quelques jours, un chercheur québécois affirmait avoir trouvé dans des roches de son pays des micro-fossiles de bactéries qui pourraient être les plus anciennes traces de vie jamais vues sur Terre. Cette découverte, si elle est confirmée, signifierait que la vie serait apparue très vite après la formation de la Terre et donc bien plus tôt qu'on ne le pensait jusqu'à maintenant. La question justement de l'origine de la vie sur Terre est un sujet épineux, passionnant et on vous propose d'y réfléchir ensemble cet après-midi avec nos invités. En duplex de Londres, nous sommes avec vous, Dominique Pepin. Pinot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes exobiologiste au Centre londonien pour les nanotechnologies ainsi qu'au département des sciences de la Terre de l'University College of London. Vous êtes le premier auteur de l'article paru dans Science Advances au sujet donc des traces de vie terrestre. On en parle avec vous. Et puis en studio avec nous à Paris, nous recevons l'exobiologiste Marc-Christine Morel. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Bonjour Dominique.
Vous êtes professeur à Sorbonne Université, spécialiste des origines de la vie et de l'évolution moléculaire. Vous êtes chercheuse à l'Institut de Systématique et Évolution Biodiversité du CNRS et du Muséum National d'Histoire Naturelle. On se retrouve donc dans un instant pour parler de cette actualité dans le monde de l'exobiologie. Et bien sûr, vous allez répondre à tous les messages qui arrivent sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux et avec vos notes vocales sur l'application France Inter. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert à 14h30.
Une histoire d'étoiles de mer que vous ne verrez mais alors plus jamais de la même façon après avoir écouté.
Et ce sera tout à l'heure donc à 14h30. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Chantal de Montagne avec Loïc Frapsos à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
La vie sur Terre serait apparue il y a au moins 3,8 milliards d'années et peut-être même encore plus.
C'est du moins ce que soutient un groupe de chercheurs qui étudie depuis des années des roches bien particulières en bordure de la baie d'Hudson. S'il s'agit bien de traces de vie, il faudra réécrire plusieurs chapitres de l'histoire de la Terre, en particulier le premier milliard d'années.
Et ça, c'était en 2017 sur Radio-Canada. Et il y a encore du nouveau, justement, concernant ces plus anciennes traces de vie sur notre planète, découvertes donc au Québec. C'est en tout le cas ce qu'affirme cette publication sortie il y a quelques jours dans Science Advances et dont vous êtes le premier auteur, Dominique Papineau. Alors, comme souvent avec des découvertes qui ont une telle importance, ça fait beaucoup discuter. Et c'est tant mieux hein, dans la communauté scientifique. Beaucoup de chercheurs restent assez sceptiques quant à votre proposition. Donc, ça veut dire que vous êtes loin encore d'arriver à convaincre tout le monde, Dominique Papineau. Comment vous le vivez, vous, là, en ce moment, depuis la sortie de l'article ?
Moi, je suis absolument enjolivé de la complexité et de la grosseur des microfossiles qu'on a découverts. Et je sais que je ne serai jamais capable de convaincre tout le monde.
Ouais.
Mais ça, c'est ce qui fait en sorte que la science est une entreprise qui fonctionne, qui évolue, puis qui s'autocritique. Donc, c'est ce qui fait notre force.
Et ça vous plaît aussi, ça, justement, qu'on arrive à contredire ou à critiquer, en tout cas, votre publication? Ça fait partie du job?
Ben oui, tout à fait. Mmh. À chaque fois que j'ai des critiques, évidemment, faut les adresser, faut les prendre très au sérieux. Et puis, le travail terminé, le produit fini, en fait, devient de mieux en mieux.
Ouais. Alors, Christine Morel, vous faites partie des sceptiques, vous, ou plutôt de ceux qui approuvent, abondent dans le sens de Dominique Papineau?
Alors j'ai du mal à abonder, non pas parce que j'en rêve de trouver des traces de vie passée, puisque
et aussi ancienne
même,
donc
et aussi ancienne, parce qu'il faut quand même savoir que 99% des fossiles que nous étudions aujourd'hui, enfin que les paléontologues étudient aujourd'hui, datent de 545 millions d'années, c'est-à-dire hier, c'était hier quoi. C'est très difficile de garder... le processus de fossilisation en soi-même est difficile et le processus de conservation est également très très difficile. Alors chaque fois qu'il y a un article... Alors je ne suis pas du tout, je veux vraiment dire ça officiellement, si je peux dire, fortement aux auditeurs, je ne suis pas du tout paléontologue. Je suis biochimiste, biologiste de l'évolution et donc je n'ai pas les outils... vraiment adapté à l'analyse de ce travail de Papineau que je salue cependant comme tous les travaux autour de la question des traces de vie.
C'est ça, vous êtes tous les deux exobiologistes quand même.
On est quand même tous les deux.
Vous avez des choses à vous dire.
Hein. On s'intéresse absolument aux origines de la vie et il y a une longue histoire des traces fossiles depuis les stromatolites, enfin etc. Et enfin ce que je voudrais quand même dire par rapport au travail de Dominique Papineau, c'est que je le trouve très honnête en ce sens que il précise lui-même que les microstructures qu'il montre, enfin qu'il analyse, sont au minimum des dubiofossiles, c'est-à-dire des fossiles dont il faut douter. Et il le précise vraiment à la fois dans l'abstract, dans le résumé de son article, et à la fois en conclusion.
Ouais.
Et il dit très bien que cette origine est mal connue. Mais enfin, ça ne l'empêche pas d'être très heureux d'avoir découvert ça, et je le comprends aussi.
Et c'est un prétexte pour en parler aujourd'hui sur l'antenne. Donc c'est formidable, ça nous permet de faire de la science sur cette question des origines, justement, Marie-Christine Morel. Vous me disiez avant l'émission, finalement, tout le monde se pose la question, pas forcément à voix haute, mais on s'interroge toujours quand même sur le tout début, quoi.
Oui, absolument. Enfin, c'est la question enfantine que tout le monde se pose jusqu'à la fin de sa vie, si je peux dire. Il y a, et donc cette question d'où vient la vie, d'où je viens, qui suis-je, enfin, etc. C'est un assemblage de questions que tout le monde se pose et que les enfants posent à voix haute. Ils osent tout à fait interroger leurs parents, leurs instituteurs, etc. Et puis qui après trouvent un certain nombre de débouchés au fur et à mesure que la vie s'écoule. Alors soit en philosophie, soit dans la religion, soit en psychanalyse. Il y a un livre fameux qui s'appelle « Le fantasme des origines et origines des fantasmes » de Pontalis. Donc c'est quelque chose dont tout le monde se préoccupe jusqu'à la fin de sa vie, je crois.
Dominique Papineau, entrons quand même dans le cœur de votre publication, même si on peut en parler au conditionnel, je crois que vous serez d'accord avec nous, avec des collègues donc britanniques, américains et chinois, vous auriez trouvé donc dans des roches québécoises, donc dans la baie d'Hudson, hein, comme on l'entendait dans Hudson, on le dit nous comme ça ici, dans ce sujet de Radio-Canada, ces roches, donc ces microfossiles très très anciens. Racontez-nous le contexte de la découverte, le lieu exact au Québec, à quoi ça ressemble, et puis la datation bien sûr de ces traces.
Ok, ça c'est beaucoup. Disons, on va commencer avec le lieu. Donc, on est dans le nord du Québec, dans la région du Nunavik. On est sur le bord de la baie d'Hudson, en face des îles de Nastapoka, qui sont à peu près à 2 kilomètres de distance. Donc, on les voit très bien sortis de la mer, sortis de la baie d'Hudson. Et le terrain là-bas, il n'y a pas d'arbres. C'est très plat. Il y a très peu de sol. Il y a des petites parcelles de mousse ou de petites plantes à fleurs, parfois quelquefois des arbustes, mais habituellement on ne voit que des roches qui sont partiellement recouvertes aussi de lichens et de mousse. Mais il y a des affleurements qui sont très bien exposés parce que la dernière glaciation qui a fondu à cet endroit-là dans le nord du Québec il y a à peu près 8000 années a pas laissé de sol justement et a tout polie la surface des roches. Et donc, une équipe en 2004 est allée là-bas, une équipe de l'Université McGill est allée là-bas pour dater les roches. Mm-hmm. Et ils ont cartographié la carte, la ceinture de Nouveau-Aguitouc. Et les roches dominantes dans cette ceinture-là sont des roches volcaniques qu'on appelle des amphibolites. Et les amphibolites, on peut les dater directement et c'est ce que cette équipe-là a fait. Et ils ont obtenu une âge de 4,28 milliards d'années. Maintenant, cet âge-là est aussi débattu. C'est pas seulement sur les microfossiles qu'il y a des débats. Mm-hmm. Cet âge-là est débattu. Il y a d'autres équipes qui prônent plutôt que l'âge de la ceinture, elle est donnée par un âge minimum de granit qui ont fait des intrusions dans la ceinture et donc qui ont coupé des roches qui nécessairement doivent être plus vieilles. Et ces granites-là ont été datés à 3,75, 3,77, 3,78 milliards d'années. Donc ça, c'est l'âge minimum de la ceinture, mais un autre argument en faveur de l'âge ADN, donc avant 3,85 milliards d'années, donc dans les premiers moments de l'histoire de la Terre, il y a une autre sorte de roche qu'on appelle des gabbros, qui sont des roches qui viennent du manteau, qui font aussi des intrusions, mais dans les amphibolites. Et c'est des intrusions assez particulières parce que quand ça s'introduit dans la roche, la partie qui touche à la roche qui est froide, qui est déjà cristallisée, donc l'amphibolite, elle va refroidir très très rapidement. Donc ça fait des côtés, des contacts qui sont presque de verre, donc des minéraux très 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 fins ou presque en verre en fait, parce qu'ils ont été métamorphosés un peu maintenant. Et ces roches-là, ces gabbros, ils ont 4,0 à 4,1 milliards d'années.
Alors vos traces à vous, en fait, parce qu'elles sont évidemment dans ces roches, oui. Vous les avez datées à combien exactement?
Ben nous on fait pas de la datation. Donc les amphibolites contiennent des formations de fer et les formations de fer forment une unité qui fait à peu près 3 km de distance dans la ceinture et il y a une partie en fait qui est proche de la plage là où les formations de fer ne sont pas vertes et grises comme par ailleurs dans la ceinture mais plutôt rouges et oranges. Mm-hmm. Donc ce sont des formations de fer aussi qui sont sur la même ligne donc ils sont interprétés comme d'habitude, ils font partie de la formation de fer de Nouveau-Aguitouc et qui sont enfermées dans l'amphibolite. Donc, elles ont l'âge de l'amphibolite.
Donc, ces traces, pour reprendre les dates qui sont proposées, entre 3,7 milliards et 4,2 milliards d'années, vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on est sur une datation qui se rapproche vraiment de la date de formation de notre planète Terre, hein, 4,5 milliards d'années. Et ça, c'est ce qui, évidemment, surprend tout le monde aujourd'hui, Dominique Papineau.
Oui, tout à fait. Donc, pour faire une histoire qui est solide puis qui va résister au scepticisme qui est partout dans la communauté scientifique, puis c'est, comme je le disais plus tôt, ce scepticisme-là, je crois que c'est bon pour la santé de la science.
Oui, tout à fait.
Donc, ça prend plusieurs lignes d'évidence indépendantes pour être capable d'arriver à une histoire qui prend en considération toutes ces observations indépendantes et qui les met dans un scénario qui fait du sens et qui aussi a été répété dans l'histoire de la Terre, dans les roches plus jeunes. Et c'est ça qu'on trouve. On trouve même les structures, les formes de microfossiles qu'on trouve, qu'on interprète. Parce qu'il y en a qu'on interprète comme des microfossiles. Il y en a qu'on interprète comme des pseudo-fossiles, donc qui ne sont probablement pas des fossiles. Et il y en a d'autres qu'on interprète comme des dubio-fossiles. Donc, qu'il y a un certain doute encore à résoudre. Donc, tout ça, ça se retrouve dans la même roche et en particulier dans les mêmes objets, dans les nodules de Chert.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ici en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, il y a les falaises de Douvres qui connaissent un équivalent aussi de l'autre côté de la Manche en France. Et dans les falaises de Douvres qui sont blanches, il y a des lits de nodules de Chert noirs. Ils sont très très faciles à voir parce que la roche elle est blanche, la falaise elle est blanche et les nodules sont noirs. Et dans ces nodules là, on trouve systématiquement des microfossiles. Donc ça, c'est juste un exemple, mais on trouve des microfossiles et des fossiles dans des nodules partout à travers l'histoire de la Terre, ainsi que dans des concrétions qui sont des objets reliés. C'est là-dedans qu'on trouve les meilleurs fossiles en paléontologie.
Allez, Dominique Papineau et Marie-Christine Morel, on se retrouve dans un instant. On verra d'où peuvent provenir justement ces traces de vie terrestre et puis ce que ça implique, évidemment, sur l'histoire de la formation sur notre planète. Vous répondrez au message des auditeurs de la Terre au carré qui arrive sur France Inter. .fr. À tout de suite. Solitaire de Nablou à l'instant.
La Terre au carré sur France Inter.
Les scientifiques s'intéressent à cette question passionnante des origines de la vie. Les paléontologues d'abord, qui travaillent sur des cellules fossiles qu'ils essayent de trouver dans des roches très anciennes. Et puis, il y a d'autres scientifiques qui essayent de comprendre ce qui s'est passé avant l'apparition de ces cellules. Et tous ces scientifiques rassemblent leurs connaissances et essayent de construire ensemble un scénario qui raconte les origines de la vie sur la Terre et les origines des étapes qui ont précédé l'apparition des cellules.
La voix du chercheur Stéphane Tirard en 2017 pour parler des plus anciennes traces de vie sur Terre, objet de notre émission avec les exobiologistes Dominique Papineau et Marie-Christine Morel. De quoi ça s'occupe une exobiologiste comme vous, Marie-Christine Morel, alors exactement ?
Alors, ben de ce que vient de dire Stéphane, oui, qui est un épistémologue à Nantes, que je connais bien, et c'est exactement ça, on essaie de reconstituer les premiers instants de la vie. Mais je pense que, comme disait Sean Moser, qui était un grand chimiste, on n'arrivera jamais à découvrir les origines de la vie comme on découvre d'autres choses en science. Il y a d'abord, première question que l'on doit se poser, est-ce que les choses se sont toujours passées telles qu'elles se passent aujourd'hui ? Nous sommes, il y a quand même eu 4 milliards d'années d'évolution de la vie, admettons qu'elle ait démarré aux alentours de 3,8-4 milliards. Donc il y a une diversité absolument extraordinaire qui s'est déroulée pendant tous ces temps géologiques et on n'est pas du tout sûr que les choses se soient passées telles que nous les observons aujourd'hui, nous, en 2022 ou même au début du XXe siècle, où on commençait à mettre en évidence ce que c'était qu'une cellule, ce que contenait une cellule avec un noyau ou pas de noyau, une réplication d'ADN, d'ARN, enfin. Donc maintenant, on a des connaissances qui nous font douter du fait que ce soit passé exactement comme on l'observe aujourd'hui.
Et comment est-ce qu'on est sûr, Marie-Christine Morel, des datations ? Donc, on parlait tout à l'heure 3,8, 4,2 milliards d'années. Comment est-ce qu'on sait ? Et comment est-ce qu'on est sûr que c'est les bonnes datations ?
Ah oui, mais là, vous me posez une question que vous devriez poser à des géologues, paléontologues, parce que comment on est sûr ? Non, là, je
bottez pas en touche parce que vous avez une idée sur la question.
Non, je botte pas en touche parce qu'il y a, on date les roches dans lesquelles on trouve des choses que certains interprètent comme des cellules. Enfin, moi, je suis complètement dubitative. Mais là, en ce qui concerne le travail de Dominique Papineau, ce sont des espèces de filaments sous forme de peigne. Mais on peut tout à fait reproduire dans des conditions abiotiques, c'est-à-dire indépendamment de la vie, ce genre de forme. Il y a, enfin, si vous regardez sur Internet, il y a un truc absolument fascinant qu'on appelle les serpents du pharaon. C'est mon étudiant qui m'a fait découvrir ça. Et donc, c'est un mélange de cyanure, de soufre et de mercure que l'on chauffe. Et à ce moment-là, on voit une forme absolument extraordinaire. On appelle ça le serpent du pharaon.
Regardez, mais c'est comme ça qu'on
c'est génial. Regardez sur Internet. J'invite tous les auditeurs à regarder.
Bon, serpent du pharaon. Le nom, le serpent du pharaon, ça se retire.
Et puis autrement, mais il faut surtout pas le faire chez soi. C'est assez dangereux parce que ça. Mais par contre, on peut refaire chez soi ou enfin, en tout cas, en laboratoire pour les lycéens et les étudiants de chimie, on peut refaire ce qu'on appelle les jardins chimiques. On appelle ça aussi les liqueurs de pierre. C'est-à-dire qu'on mélange des ions minéraux avec du silicate, une solution de silicate dans l'eau, et on voit apparaître des formes et des couleurs absolument géniales et magnifiques. Donc, si vous voulez, la chimie abiotique est très très riche, déjà en forme et en mouvement.
Mais ça ne me dit pas comment on date, en fait.
Alors, comment on date ? Eh bien, on date... Les gens qui trouvent ces formes, comme Dominique ou d'autres, William Schopp, une jeune chercheuse américaine, australo-américaine, qui s'appelle Abigail Allwood, qui a fait des travaux considérables sur les stromatolites, eh bien, partout où ils trouvent ce genre de forme, ils datent la roche. Et donc, on dit si c'est une roche qui contient ou du zircon ou de l'yttrium, ou je ne sais quoi, parce que je ne suis pas géologue, je ne peux pas vous donner dans le détail, eh bien, on a des datations isotopiques qui nous disent, voilà, puisque la forme que l'on trouve est dans cette roche qui date de temps, ça on est sûr de la datation de la roche, à ce moment-là, les formes seraient de la même date.
Mais... Dominique Papineau, complément de réponse sur le comment on date justement les roches, qu'est-ce que vous pouvez répondre ?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs façons de dater les roches. Comme Marie-Christine a mentionné, on utilise des isotopes, donc des isotopes radioactifs qu'on retrouve dans les minéraux. Donc les minéraux, ils sont faits d'une composition chimique homogène et déterminé, mais il peut y avoir des petites substitutions des fois. Par exemple, un atome d'uranium va remplacer un autre atome dans la structure du zircon. Mm-hmm. Et les zircons, ce sont des minéraux qui sont assez communs dans les granites, donc on peut dater des granites facilement. Pour la date de 4,28, ça c'est une source d'incertitude en fait, parce que c'est une méthode de datation qui est unique à cette roche-là. Elle a déjà été appliquée à certaines autres roches, puis ça a donné des âges qui n'étaient pas nécessairement, qui corroboraient pas toujours nécessairement les autres âges connus pour ces roches-là. Mais en fait, là dans ce cas-ci, c'est pas les isotopes d'uranium, c'est les isotopes de samarium 146. Qui se désintègre et pour produire du néodymium 142 qui est stable.
Bon, et bref, alors ça, on n'y comprend pas grand chose. Mais en tout cas, ce que j'entends quand même, Dominique Papineau, c'est qu'il y a quand même une marge d'incertitude liée à la méthode elle-même, alors, et que vous admettez d'ailleurs.
Oui, effectivement, mais il y a quand même deux observations principales à considérer. Donc l'âge du samarium néodymium que je disais sur les amphibolites et aussi sur les gabbros qui font des intrusions dans les amphibolites, et aussi le fait que les amphibolites ont une signature de plancher océanique qui est très très ancienne. Donc la controverse là, c'est est-ce que ces roches-là auraient pris une source dans un réservoir primitif du manteau, mais qui serait arrivé à la surface de la Terre seulement que à 3,7 milliards d'années ou 3,75 milliards d'années. Donc ça, c'est ce que certains chercheurs pensent, mais c'est pas nécessairement consistant avec toutes les observations.
Marie-Christine Morel, un petit mot encore?
Oui, moi, pour ajouter quand même à ce que dit Dominique, enfin c'est très intéressant, en ce qui concerne les profondeurs de la Terre, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, 70% des microbes vivent dans les profondeurs, mais très très grandes profondeurs de la Terre, et bien au-delà des planchers océaniques. Donc ça, c'est un élément très récent qui a été mis en évidence par Emmanuel Girard, Bénédicte Ménès, etc., à l'Institut de physique du globe de Paris. Oui. Et je trouve que c'est vraiment très très intéressant.
Alors, est-ce que ça comprend les cheminées hydrothermales, justement?
Ah non, c'est bien...
C'est encore en dessous, hein. Dominique Papineau, alors un mot, parce qu'on y reviendra dans la seconde partie de l'émission. Quelle serait la nature biologique, finalement, de ces microfossiles, de ces filaments qu'on décrivait tout à l'heure? Alors, ce serait quoi, finalement, ces premières traces de vie?
Oui, alors, donc, les groupes de filaments en forme de peigne ressemblent beaucoup à d'autres groupes de filaments en forme de peigne qui sont composés de fer qui est hydroxylé aujourd'hui, donc avec un petit peu d'eau.
Mais répondez-moi simplement, ce serait quoi
qui compose...
Ce serait quoi la nature biologique finalement de ces microfossiles?
Ben, ça serait des bactéries qui oxydent le fer. En fait, c'est ce que je m'approchais à dire, c'est qu'on voit ces formes-là dans les bactéries qui oxydent le fer.
Voilà, eh ben c'était la réponse que je voulais avoir pour en parler avec vous dans la seconde partie et pour voir également ce que ça remet en cause sur les premiers temps de la vie sur Terre. C'est le dossier aujourd'hui de la Terre au carré. Vous répondrez au message qui arrive bien sûr sur le site de l'émission.
France Inter. La Terre au carré.
Et à 14h, quasiment 32, c'est Camille Passauvert.
Et si vous êtes du côté de la dune du Pila, vous avez peut-être été témoin ces derniers jours en vous promenant sur la plage, comme Jacques, d'un étrange phénomène.
Je marche et progressivement, je vois de plus en plus d'étoiles de mer.
Des milliers d'étoiles de mer échouées sur le sable depuis une semaine. Les photos ont fait le tour de la presse locale. Claire Canton est médiatrice scientifique au syndicat mixte de la Grande Dune du Pila.
Au pied de la dune, vous retrouvez avec vraiment un tapis d'étoiles de mer de plusieurs couleurs parce qu'elles vont du violet jusqu'au beige. Enfin voilà, c'était la première fois que j'en voyais une telle quantité sur nos côtes.
Avec une issue pas forcément heureuse pour toutes.
Pour la plupart, quand on les observe de près, on voit qu'elles bougent. Donc elles sont vivantes, elles sont quand même en capacité de se déplacer pour rejoindre l'eau d'elles-mêmes. D'autres, malheureusement, les plus faibles n'ont pas réussi. Et puis encore d'autres ont été mangées par la faune locale, notamment les goélands qui s'en sont régalés.
Mais attention, on évite quand même, si on a un peu pitié, de les manipuler. Pas d'intervention humaine, sauf, allez, si vous en voyez une sur le dos, par exemple, vous pouvez...
la déposer au niveau de l'eau sans forcément la jeter dans l'eau.
Voilà, de la délicatesse, s'il vous plaît, et pas trop d'émerveillement non plus. Jacques Storelli, le promeneur, est aussi président de la CEBA, qui regroupe 22 associations environnementales.
Si ça doit être interprété comme quelque chose, finalement, de « Ah, qu'est-ce que ce bassin d'Arcachon nous offre ?» Comme beauté, c'est absolument incroyable. Même les étoiles de mer se baignent sur les plages avec les baigneurs. C'est fantastique, c'est la symbiose entre la nature et l'homme. C'est pas la peine. C'est pas ça du tout. C'est quand même quelque chose d'anormal qui invite la science à se pencher là-dessus pour dire qu'est-ce qui se passe.
Alors justement, j'ai contacté Guillaume Bernard, chercheur CNRS à la station marine d'Arcachon, Université de Bordeaux. Il est précisément benthologue, comme benthos, le fond des mers, spécialiste du fond des mers. Et je lui ai demandé comment on peut expliquer ces échouages massifs.
On ne sait pas.
Ah au moins c'est clair. Il y a cela dit des hypothèses, parce que des échouages similaires ont déjà été observés. Ce n'est pas en fait rare du tout, aussi bien en France, le Cap Ferret l'année dernière ou Oléron plusieurs années, au Royaume-Uni aussi par exemple.
Dans la plupart de ces événements ont été mis comme cause potentielle des effets de tempête hivernale la plupart du temps. L'autre hypothèse qu'on peut émettre derrière, c'est aussi que ce soit des organismes qui viennent de se reproduire, du coup qui soient un peu épuisés, qui ont puisé dans leurs réserves d'énergie pour la reproduction, et l'occurrence d'une tempête, de courant un peu plus fort que d'habitude, peut les avoir amenés sur la plage.
Une éventuelle pollution en tout cas est exclue, sinon on ne retrouverait pas uniquement les étoiles de mer. Dans tous les cas, lui n'est pas particulièrement inquiet, c'est bien la preuve, au contraire, qu'elles sont nombreuses. Desquelles parle-t-on d'ailleurs sur les 1500 espèces qui existent dans le monde ?
Alors là, on parle de l'étoile de mer commune, Asteria rubens. Donc c'est l'étoile de mer comme tout le monde l'imagine, qui est donc un échinoderme. Donc ça appartient au même embranchement que les oursins ou les holothuries, les concombres de mer.
Et Guillaume Bernard en a profité du coup pour me parler un petit peu d'elle, parce que même Claire Canton à la dune du Pilat me l'a dit.
C'est l'occasion de se rendre compte que ce sont des animaux fascinants, en dehors du fait que ça soit simplement beau.
Alors je vous préviens, vous ne les verrez plus du tout de la même façon.
On a ce mythe de l'étoile de mer qui est un animal finalement mignon, alors qu'on a affaire à un prédateur extrêmement vorace. C'est même un organisme qui, sous certains aspects, est assez effrayant.
L'étoile de mer est un méga prédateur carnivore qui dégomme tout ce qu'elle peut, à commencer par les coquilles Saint-Jacques ou les moules. Accrochez-vous, la technique est redoutable.
Elle arrive à l'ouvrir légèrement et ensuite, elle va y rentrer son estomac qu'elle arrive à dévaginer. Elle sort son estomac de sa bouche, elle le renverse finalement, comme une chaussette. Et en sécrétant des enzymes, elle va dissoudre sa proie et la digérer en direct et en ingérer le contenu directement avec son estomac sorti.
Un film d'horreur. Et ce n'est pas tout.
Elles peuvent avoir dans certains cas des stratégies de prédation en groupe, où on a des groupes extrêmement denses, plus de 300 à 400 étoiles de mer au mètre carré, qui progressent lentement sur le fond des océans, notamment sur les moulières où on a les moules, et qui vont avoir tendance à les décimer totalement, c'est ça, sur plusieurs hectares.
Mais
leur prédateur majoritaire, c'est elle-même. Il y a énormément de cas de cannibalisme ou de prédation au sein même des étoiles de mer.
Voilà, je vous avais dit, des animaux qui peuvent parcourir aussi 200 mètres par jour. Elles se déplacent bien et se reproduisent, on en parlait tout à l'heure, par fécondation externe. La larve en forme de toute petite mini étoile de mer met 90 jours avant de se déposer sur son milieu final. Donc si vous tombez sur l'une d'entre elles en vous baladant sur la plage ou en ouvrant les yeux dans l'eau dans les jours qui vont venir et les mois qui vont venir, n'ayez pas trop peur quand même. Elles vont pas s'attaquer
à vous. On s'est jamais fait dévorer par une étoile de mer.
Non, pas encore. Elles vont rien vous faire, mais vous aurez, cela dit, encore plus de raisons maintenant de les laisser complètement tranquilles.
Les céréales killeuses, les étoiles de mer, Camille Passevert à réécouter sur franceinter.fr.
Marie-Christine Morel, je vous ai vu ouvrir de
mon nom. Moi,
ce qui m'épote, c'est la diversité du vivant. C'est extraordinaire, c'est génial la vie.
Et les étoiles de mer sont des survivantes. La plus ancienne, en tout cas, les scientifiques disent, a été découverte au sud du Maroc en 2003, mais c'est sorti l'an dernier. 480 millions d'années, ça, c'est une des survivantes de cette époque-là.
Oui, c'est absolument extraordinaire. Vous voyez, la vie est pleine de ressources. On peut même sortir son estomac, les digérer ailleurs.
C'est ça, c'est pratique. Et puis, on n'y pense pas assez.
Donc, il faut s'émerveiller.
Voilà, 1500 espèces. Voilà,
1500 étoiles de mer dans le monde.
Allez, vous pouvez le réécouter bien sûr ce sujet sur la page de l'émission. Et on revient à nos origines de la vie dans un instant avec nos invités.
whispering close to yours. And I felt it creeping up every day. Baby, right from the start, I know that look you give when we're fighting. We're fighting. Cause I used to be the one who was lying. Oh, lying. Oh, is there someone else or not? Cause I wanna keep you close. I don't wanna lose my spot. Cause I need to know if you hurting him or you hurting me. If I ain't with you, I don't wanna be. Is there someone else or not? Ooh, or not? I don't deserve someone loyal to me. Don't you think I see? And I don't want to be a prisoner to who I used to be. I swear I changed my ways for the better, the better. Cause I wanna be with you forever, forever. Oh, is there someone else or not? Cause I wanna keep you close. I don't wanna lose my spot. Cause I need.
Et There's Someone Else, The Weeknd sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Il y a quand même deux grandes théories. Il y a une théorie qu'on appelle la biogénèse, qui serait l'idée que la vie soit née de l'inerte, hein, de choses qui soient inorganiques. Et puis, il y a d'autres théories qui seront plutôt de l'ordre de la panspermie, qui sont les idées que des formes de vie seraient venues soit par des météorites ou des choses comme ça. Après, ce qui est assez fascinant, c'est que Darwin, dans une lettre en 1871, nous dit quasiment ça. Il nous dit que très probablement, ou en tout cas c'est possible, que la vie est émergée d'une sorte de soupe primordiale, hein, sous des conditions. Darwin dit ça en 1871. On est encore sur tous les débats sur la génération spontanée. Donc c'est vraiment des choses qui agitent les communautés scientifiques, enfin en tout cas à l'époque, de manière très forte.
Il s'appelle Éric Lapi, muséologue sur le site Futura Planète. En septembre 2019, on parle des origines de la vie sur Terre avec Marie-Christine Morel et Dominique Papineau en duplex de la BBC à Londres, tous les deux exobiologistes. Donc effectivement, on le comprend, Marie-Christine Morel, il y a différentes théories sur comment la vie a émergé, parce que c'est intéressant. Est-ce que ça s'est fait là, comme ça, spontanément? Est-ce que ça arrive d'ailleurs? Pense permis.
Mais si ça arrive d'ailleurs, ça déplace le problème. La question, c'est que si toutefois, ce que je ne crois pas, ça s'est fait ailleurs et ça a ensemencé la Terre primitive, il faut bien comprendre ce qui s'est passé ailleurs. De la même manière qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé sur Terre,
on ne comprend pas. Ça déporte le problème, finalement.
Par contre, Darwin qui écrivait à Hooker en 1871, alors que Darwin n'a jamais parlé des origines de la vie, parler justement d'une petite mare chaude dans laquelle aurait été en présence des sels, des molécules primitives,
soupe,
etc. Une soupe primitive, etc. Donc là, ça a été quand même un des starters de la réflexion là-dessus. Et puis ensuite, il a fallu attendre 1953, l'expérience de Stanley Miller, qui a montré à partir des molécules présentes dans l'atmosphère qu'on pouvait obtenir ce qu'on appelle les briques élémentaires du vivant, des acides aminés, et voilà. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées en laboratoire, et aujourd'hui, il y a pas mal de laboratoires dans le monde qui travaillent sur cette question, à essayer de reconstituer.
Mais vous, vous êtes une fabricante de briques du vivant, quasiment.
Alors moi, je fabrique ça, hein, oui.
Dans votre petit labo, là, c'est ça.
Absolument. Nous, on fabrique des briques élémentaires, telles qu'on les retrouve d'ailleurs dans les météorites. Par exemple, il y a un article récemment paru dans Nature Communication, qui est annoncé la découverte de briques de l'ADN et de l'ARN dans la météorite de Murchison.
Ouais. Alors, les lettres manquantes, hein, pour que le puzzle soit tout à fait complet.
Alors, la question, c'est, moi, je veux bien qu'on trouve, enfin, on trouve effectivement, et le travail qui est présenté dans Nature Communication est absolument merveilleux. C'est une démonstration de la puissance aujourd'hui des outils analytiques dont on dispose en chimie. Pour essayer de comprendre comment, justement, donc ce que je disais, ces briques élémentaires se sont constituées. Mais ça ne résout pas la question de savoir comment ces briques élémentaires sont devenues fonctionnelles. C'est-à-dire, donc, comment...
Comment elles sont passées vraiment à la vie, c'est
comment
ça,
c'est, voilà, ouais. Comment c'est passé à la vie, quoi. Comment on a obtenu un premier métabolisme, des premiers réplicateurs, un premier compartiment. Et puis la sélection naturelle, comment est-elle intervenue pour arriver...
Donc c'est la flamme qui a mis le feu aux poudres, finalement.
Que nous sommes ici.
Objet complexe.
Voilà.
Dominique Papineau, alors si on admet qu'effectivement ces traces retrouvées au Québec soient âgées de 4,28 milliards d'années, imaginons vraiment le maximum de la datation, ça voudrait dire quand même que la vie a émergé super rapidement sur Terre, puisque l'âge de la Terre c'est 4,5 milliards d'années. Ça c'est peut-être ce qui est le plus excitant finalement dans votre proposition, non? C'est que la vie, hop, elle est capable d'éclater comme ça, mais super vite.
C'est une génération spontanée.
Ouais, effectivement. Puis ça, c'est vraiment, ça a des implications au niveau de ce qu'on pense qu'on peut trouver sur d'autres planètes. Donc, et ça augmente littéralement la probabilité que la vie extraterrestre existe parce que ça prend un temps plus court à ce qu'elle puisse émerger. Mais aussi avec ce qu'on a documenté, la façon qu'on l'a documenté, je pense qu'on donne une certaine recette pour chercher non seulement des objets, des substances et des patterns spécifiques, mais aussi une façon d'y arriver, une procédure analytique. Donc.
Vous parlez de recettes, Dominique Papineau. Est-ce que vous pouvez nous donner les ingrédients indispensables à la vie? Tiens, un petit rappel.
Ah ben en termes d'éléments, on les appelle schnops, donc carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. C'est ça la vie, essentiellement.
Et un peu de liquide par-dessus quand même pour faire le lien ou pas?
Ouais, évidemment, ça, pour que la chimie organique fonctionne, on a besoin d'eau, on a besoin d'éléments halogènes comme par exemple du chlore, du fluor, du brome, de l'iode, des métals de trace comme par exemple le fer, le manganèse, le vanadium, donc le cuivre aussi, le zinc. Le nickel, ce sont tous des éléments qu'on retrouve dans la vie qui ont des fonctions très particulières et qu'on peut utiliser aussi pour chercher des observations à l'appui d'une conclusion qui va vers la biologie.
Mais ce que ça veut dire, c'est que les ingrédients de base, ils sont assez simples finalement, Marie-Christine Morel.
Les ingrédients, évidemment, les
atomes. C'est pas très compliqué de fabriquer la vie.
Les atomes viennent tous d'une étoile.
Ouais.
Et donc carbone, oxygène, des schnops, comme dit. Dominique et comme on dit dans notre jargon, eh bien tout cela provient d'une étoile, de l'explosion d'une étoile qui déverse des atomes. Nous sommes des poussières d'étoiles, comme disait Hubert Reeves. Mais enfin, cela ne rend pas compte de la chimie prébiotique qui a fait que un certain nombre de réactions avaient les conditions thermodynamiques et énergétiques suffisantes pour donner des éléments stables. Ouais. Et ensuite, comment ces éléments stables, ces acides aminés, ces nucléobases que l'on trouve absolument partout dans le système solaire, dans des astéroïdes, des poussières sur Terre, enfin, etc. Comment dans cette soupe prébiotique, eh bien ces briques élémentaires se sont associées et puis ont évolué à travers dans les processus dont j'ai parlé tout à l'heure, réplicatifs, métaboliques et au sein de compartiments. Bon, un premier compartiment, ça pouvait être le creux d'une roche, mais on a une membrane qui permet des échanges avec l'extérieur, avec l'environnement, et c'est ça, au fond, le métabolisme, et c'est ça qui évolue et qui fait la biodiversité du vivant, c'est-à-dire que tous les métabolismes sont dépendants de l'environnement dans lequel ils vivent. Et cette richesse-là, elle s'est construite au fil des années, Et aujourd'hui, on n'a absolument aucune idée de comment ça s'est passé à l'origine. Les choses ne se sont pas passées comme on les observe aujourd'hui. Et rechercher ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années, identique à ce qu'on observe aujourd'hui, je pense que c'est un rêve d'enfant, mais qui nous fait vivre en même temps.
Dominique Papineau, avec vous, on parle vraiment de vieux schnopps, on l'a compris, 4,2 milliards d'années. Mais alors dites-moi, l'émergence de la vie sur Terre, on sait que ça s'est passé de la même manière sur Mars, par exemple. Il y a eu un démarrage, en tout cas, qui aurait pu tourner comme sur la Terre, mais qui s'est pas produit. Comment on l'explique que justement la petite flamme, là, elle a pas du tout pris sur d'autres planètes?
Ben, on le sait pas, en fait, la réponse à cette question-là. Que ce soit sur Mars, sur la lune de Jupiter qu'on appelle Europe, ou Ganymède, ou même sur une lune de Saturne qu'on appelle Encelade, ce sont 4 places dans le système solaire où il y a des environnements habitables, donc qui a de l'eau liquide. Et sur Mars, il y a de l'eau liquide. Effectivement, dans un des pôles, il y a eu des poches d'eau liquide qui ont été découvertes là, à l'intérieur de la glace, il y a quelques années, par une équipe italienne. Donc, ce sont tous des environnements qui sont habitables ou qui étaient plus habitables dans le passé, dans le cas de Mars. Et donc, on peut imaginer que les conditions nécessaires à l'hydrothermalisme, parce que je pense que c'est ça l'hypothèse qui est la plus pertinente à suivre là, pour l'origine de la vie. S'il y a de l'activité volcanique, il pourrait y avoir de l'hydrothermalisme. Et là, à ce moment-là, les minéraux dissoudent. Ça fait une chimie complexe, comme Marie-Christine le décrivait.
Camille, une question pour...
Justement, vous parlez d'hydrothermalisme. Aujourd'hui, finalement, vous aviez l'air de le dire. Vous nous parliez au tout début de l'émission de la région dans laquelle vous avez fait ces découvertes. Mais finalement, est-ce que le mieux pour essayer de trouver les origines de la vie sur Terre, c'est pas de plonger quelque part dans l'océan, Marie-Christine Morel?
Alors, il y a effectivement deux sortes d'hydrothermalisme. Un hydrothermalisme profond, à 3000 mètres de profondeur, où il y a des évents marins avec des organismes absolument extraordinaires qui vivent, des moules géantes, des vestimentifères, enfin, etc. Et puis, il y a un hydrothermalisme de surface, comme vous en trouvez à Yellowstone. Et comme nous allons visiter avec deux étudiants, mon étudiant en thèse et puis une étudiante de master, fin juin, nous partons en expédition en Islande, avec un collègue américain, David Dimmer, et puis un collègue français, Marco Seta, et en collaboration avec un laboratoire islandais, nous allons faire une expédition et essayer de recueillir des échantillons sur ces sites hydrothermaux de surface. Évidemment, ces sites hydrothermaux de surface remplissent un certain nombre de conditions qui auraient pu se passer aux origines de la vie sur Terre, à savoir une forte température, de l'eau, avec de la vapeur d'eau, de fortes pressions, des sels minéraux, et donc on espère... Bon, évidemment, on trouvera des bactéries actuelles, c'est-à-dire des archébactéries, des bactéries qui vivent à haute température, des bactéries barophiles, etc. Mais peut-être trouvera-t-on...
Dans votre filet de pêche.
Voilà, peut-être trouvera-t-on des ingrédients absolument uniques et qui pourraient être des traces de vie passées, mais tout cela sera à analyser à notre retour.
Mais ça veut dire qu'il y a une forme, je m'adresse aussi bien à vous Marie-Christine Morel qu'à vous Dominique Papineau, il y a une forme un peu de course, de compétition entre vous là. L'idée c'est quoi? C'est d'être le premier à trouver les plus anciennes traces de vie. Dominique Papineau, vous le voyez un peu comme ça ou pas?
Non, pas vraiment. Moi, je le fais parce que c'est ma passion, parce que c'est ma raison d'être. Il y en a probablement qui sont compétitifs, mais c'est plutôt pour des sous, pour avoir des subventions. Mais somme toute, je pense qu'on travaille sur les mêmes questions. Puis moi, j'apprécie beaucoup quand mes collègues publient des observations importantes que je peux utiliser dans mes recherches. Donc, je peux pas tout faire. Je suis une personne. Même chose pour Marie-Christine, j'imagine.
Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce
que tu
viens de dire. Il y a pas
une petite quête du Graal,
quand
même, parce que...
Non. C'est vrai que quand on trouve quelque chose, qu'on publie quelque chose d'original, c'est une satisfaction extraordinaire. Oui. Mais enfin, ça arrive pas très très souvent. Hein. Des Nature tous les jours ou toutes les semaines. Il y en a qui le font, hein, qui sont spécialistes. Mais c'est ce qu'on appelle la science normale, c'est-à-dire on publie, plus le labo est grand, plus on publie beaucoup, parce qu'il y a énormément de main-d'œuvre, etc. Mais enfin, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Dominique sur le fait que, moi, c'est ma raison de vivre, quoi,
mais justement...
cette recherche, et je ne conçois absolument aucune... Dès que des collègues trouvent des choses, je me précipite pour comprendre.
Dominique Papineau, vous disiez, c'est ma passion, d'où ça vient, une passion pour les origines de la vie, ce qui est très respectable, hein, bien sûr, mais ça vient d'où?
C'est une introspection qui vient de bas âge dans mon cas, et c'est une passion qui a fait en sorte que j'ai été attiré à étudier toutes les sciences. Donc j'en ai pas manqué une. J'ai commencé moi avec un baccalauréat en physique, j'ai fait une mineure en biochimie, étudié les mathématiques et l'astrophysique aussi à l'Université de Montréal. J'ai fait mon bac à McGill. Puis après ça, c'était au niveau du doctorat, j'ai fait les sciences de la Terre, la géochimie et puis l'astrobiologie. Donc j'ai passé par tous les côtés, tous les angles.
Effectivement, Marie-Christine Morlaix, vous nous direz dans un instant ce qui est à l'origine justement de votre passion. Ne me regardez pas avec ces gros yeux, vous me faites peur.
Ah.
Sur les origines de la vie.
Elles ont changé ma chanson. Elles ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire, et c'est pas bon, moi. Et ils ont changé ma chanson.
Look what they done to my brain, man. Look what they done to my brain.
Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, ma.
Look what they done to my son.
Ils ont tradé ma chanson, ma. Ils ont trahi ma chanson.
Ce n'était rien qu'une chanson,
mais c'était ma chanson, moi. Et ils ont changé ma chanson.
Changer ma chanson, la voix d'Arnaud, et celle de Stéphane Escher.
France Inter, la Terre au carré.
Allez, nos invités exobiologistes Marie-Christine Morel et Dominique Papineau, qui est en duplex de la BBC à Londres. Marie-Christine Morel, votre passion, vous le disiez, c'est vraiment ma raison de vivre. Hein,
oui.
C'est fou comme terme quand même.
Ben,
rechercher les origines de la vie, c'est ma raison de vivre.
D'abord parce que j'adore travailler, donc ça me plaît beaucoup. Et puis je crois que c'est... Enfin, moi, j'ai fait de la recherche pour chercher sur cette question.
Mm-hmm.
J'aurais pas fait de la recherche pour faire... autre chose, quoi, peut-être de la philosophie, mais certainement pas rechercher. Enfin, je veux rien dire d'autre, mais en tout cas, c'est lié à une pulsion de vie, je crois, une pulsion vitale pour moi que de rechercher cette question fondamentale des origines.
Dominique Papineau, il nous reste très peu de temps. Marie-Christine Morel nous disait en antenne, faut faire attention dans la science de ne pas chercher le spectaculaire. Vous faites attention à ça, vous aussi, parce que c'est vrai que un résultat comme le vôtre, on met tout de suite en avant le 4,28 milliards d'années comme étant un record. Ça vous agace aussi, ça, ou finalement vous êtes aussi à la recherche de ce spectaculaire?
Bon, je pense que c'est important quand on fait des découvertes significatives de prendre et de saisir les opportunités de disséminer les connaissances, parce que c'est quelque chose qui peut faire avancer la science, qui met évidemment comme cible tous les aspects de la recherche, mais je commence à être habitué à ça. C'est pas une question de popularité ou d'argent, c'est vraiment une vocation, c'est vraiment une passion, parce que la question ultime de sommes-nous seuls dans l'univers ne peut être approché qu'en faisant de la science, parce qu'on peut sans ça créer des films Hollywood, mais ça reste pas vrai. Il faut le prouver, et comment on va le prouver? Ben c'est comme ça.
E.T. c'était pas mal quand même, on peut le dire.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On peut renvoyer sur votre livre aux éditions du Pommier, Marie-Christine Morel.
Les origines de la vie.
Exactement, qui nous explique tout un tas de choses justement sur les prémices et sur la soupe prébiotique. Merci à tous les deux et merci aux équipes de la BBC à Londres de nous avoir permis ce duplex aujourd'hui.